Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.
Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mes très chers frères, l'Église qui fait tout pour nous empêcher de nous damner, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous explique comment la signification des paroles que nous avons chantées il n'y a pas si longtemps, encore dans la liturgie, Agnus redemit oves. L'agneau a racheté les brebis. Cet agneau, mes très chers frères, c'est le bélier d'Abraham, c'est le bélier qu'Abraham a trouvé dans les épines et qui a remplacé son fils Isaac. Cet agneau, ce bélier, c'est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et c'est pour cela que ce deuxième dimanche après Pâques est appelé aussi communément le dimanche du bon pasteur. Tant dans l'épître que vous avez entendu que dans l'évangile, il se trouve que l'on parle de notre Seigneur Jésus-Christ comme du bon pasteur. Et effectivement, après avoir racheté ses brebis par l'eau du baptême, par sa passion, sa mort, sa résurrection, et par l'eau du baptême, bien sûr, le sacrement qui nous fait entrer dans l'Église, eh bien, le Christ doit être considéré comme étant notre bon pasteur. Il est notre rédempteur et il est en même temps notre pasteur. Il n'est pas un rédempteur occasionnel qui nous aurait tiré d'affaire et qui serait parti. Il est non seulement celui qui nous a ressuscités d'entre les morts, mais il est aussi celui qui nous guide et qui nous mène par le chemin étroit jusqu'à la vie éternelle. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons plusieurs choses à examiner aujourd'hui. Premièrement, nous verrons comment notre Seigneur Jésus-Christ est le modèle des pasteurs, comment son abaissement a produit notre relèvement. Et nous verrons aussi ce que signifie être, ce que c'est qu'être relevé par le Christ et comment se réalise l'œuvre salvifique. Ce sera notre premier point. Ensuite, nous verrons en deuxième point quelques considérations pratiques. Nous verrons pourquoi une brebis peut être dite errante. Et nous verrons aussi ce que veut dire connaître la voie du bon pasteur. Et en troisième point, nous verrons comment on cesse d'être errant et pourquoi il faut cesser d'être errant. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
C'est aujourd'hui le dimanche du bon pasteur. Et dans l'oraison, sur laquelle nous allons nous attarder quelques instants, dans l'oraison, voici ce que l'Église nous a fait demander à Dieu il y a un instant. Deus qui infinitui. Ô Dieu, qui par les abaissements de votre Fils avez relevé le monde de la déchéance où il se traînait, comblez vos fidèles d'une joie sans fin, en donnant à ceux que vous avez arrachés au péril d'une mort éternelle de jouir du bonheur de l'éternité, par le même Jésus-Christ, etc. Voilà une oraison qui est très encourageante. C'est une oraison qui s'adresse à Dieu, Deus. Nous avons souvent expliqué qu'il était important de se rendre compte à quel aspect de Dieu, si l'on peut dire, quel aspect de Dieu, si l'on peut dire, l'Église nous fait nous adresser, parce que cela n'est pas rien pour nous renseigner sur l'optique de l'oraison. Alors, sans entrer dans les détails, parce que nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui, mais disons que le fait que l'Église nous fait nous adresser à Dieu en disant simplement « Ô Dieu, Deus », a quelque chose d'intimidant. Parce que vous savez que plus on utilise de mots, plus aussi ce qu'on veut dire est qualifié, précisé, mais en même temps, plus il y a de mots, plus ça signifie que plus complexe est la chose. Quand on dit omnipotens, sapiens Deus, etc., vous vous souvenez, ça veut dire que nous apprêtons à demander à Dieu quelque chose qui dépasse nos forces. Bon. Mais quand nous nous adressons à Deus, à Dieu, il y a quelque chose d'intimidant et en même temps de rassurant. Nous allons le voir, c'est une raison qui est qui concerne spécialement les chrétiens, les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que l'Église nous fait nous adresser à Dieu en tant que Dieu. C'est-à-dire Dieu est Dieu et nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu et nous nous adressons à Dieu dans une relation aussi, j'allais dire aussi naturelle. Oui, elle est naturelle depuis le baptême, elle est surnaturelle, c'est notre nature d'être désormais des êtres surnaturels. Elle est, disons, toute naturelle au sens commun du terme. C'est la relation toute naturelle qu'il y a entre les brebis et leur pasteur. Les brebis sont nécessairement les brebis du pasteur, et le pasteur, s'il s'appelle pasteur, c'est qu'il est le pasteur des brebis. Deus, ô Dieu, nous nous adressons non seulement en tant que les créatures de Dieu à Dieu, mais en tant que les enfants de Dieu à notre Père. Deus, c'est en fait notre Père. L'état de pasteur, mes très chers frères, avant d'entrer dans l'oraison proprement dite, disons un mot sur cette notion de pasteur, de bon pasteur. Nous avons dit que ici, Deus, dans le contexte de cette messe, Deus, c'est notre Père, c'est notre pasteur. L'état de pasteur, qui est une qualité divine, peut se manifeste différemment dans le temps. Dans le temps, dans les choses, dans le monde sublunaire, l'état de pasteur qu'est Dieu, l'état de pasteur en Dieu, l'état archétypal du pasteur, se manifeste par l'état royal. Et dans l'Église, pour ceux qui regardent dans le temps, dans le monde sublunaire toujours, mais pour les choses surnaturelles, dans l'Église, l'état de pasteur, l'état, disons, la racine pastorale qui se trouve en Dieu, l'archétype pastoral qui se trouve en Dieu, se manifeste par l'état pontifical, que ce soit le pape, bien entendu, ou que ce soit les évêques. Le pape est le souverain pontife et les évêques sont les pontifes de l'Église. Donc, l'état de pasteur, l'état divin de pasteur, se manifeste dans le temps en tant que l'état royal, nous n'en parlerons pas parce que ça sort de notre sujet, et dans l'Église, qui est dans le temps, par l'état pontifical. Il se trouve, mes très chers frères, que cet archétype divin, eh bien, cet archétype divin qui se manifeste dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, doit être considéré comme intimement lié avec la nature de Dieu qui est l'amour. Deus caritas est, Dieu est amour. Il se trouve que le pasteur, que ce soit dans l'ordre temporel, on pensait à un roi, ou le pontife dans l'Église, le pasteur est toujours, a priori, vous allez dire le chef, oui, mais avant d'être le chef, c'est celui qui aime. C'est-à-dire que le roi, avant d'être le chef de son peuple, est leur père. Le roi est notre père dans le sens où le roi nous aime, il nous aime comme ses enfants, il nous aime comme sa chose, sa propriété sous un certain rapport, mais il nous aime, c'est-à-dire que nous avons un rapport avec le roi, comme le rapport des enfants avec leur père, et ce rapport des enfants avec leur père n'est pas un rapport de dominé à dominant, mais ou de dominant à dominé, c'est un rapport essentiellement de charité. Ensuite, il y a effectivement la domination, il y a ensuite la royauté, il y a bien entendu les actes de l'autorité et de la domination, c'est vrai, mais tout ceci s'enracine dans l'amour. Par exemple, le tyran entretient avec le peuple dont il est le tyran, mettons même dans l'ancien... Dans l'Antiquité, il entretient avec le peuple dont il est le tyran à peu près les mêmes rapports du point de vue de l'autorité que le roi a vis-à-vis de son peuple, sauf qu'il n'aime pas son peuple. Un tyran ne peut pas aimer son peuple, car si un tyran aimait son peuple, alors vous avez dit, alors ça serait un roi. Non, s'il n'était pas tyran, il serait un roi, et c'est pour cela qu'il aimerait son peuple. Le tyran ne peut jamais devenir roi. Le tyran est là, il tyrannise jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le roi est tellement dans un rapport organique avec son peuple, eh bien que le roi dure de génération en génération, de siècle en siècle, le roi est mort, vive le roi, vous le savez très bien, comme de même que le peuple, eh bien, est le peuple du roi de génération en génération. Il y a donc dans cette notion de pastorat, de pasteur, dans l'archétype du pasteur, la notion de la charité, de l'amour de Dieu pour ses enfants, pour ses créatures tout d'abord, mais spécialement pour ses enfants, car Dieu est dit le créateur de tous les hommes et de toute la création, et à ce titre-là, il les aime d'un amour de créateur, mais il est le père de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il les aime d'un amour particulier, parce qu'on peut être aimé du créateur, recevoir la pluie, alors même qu'on est méchant et qu'on est damné. Il se trouve qu'on ne peut être aimé de son Père céleste, quand on est son enfant, sans recevoir de lui non seulement la pluie, mais aussi la pluie céleste qui est la grâce, qui nous fait germer et croître jusque dans la vie éternelle. Et entre-temps, cette grâce nous fait porter du fruit à la gloire de notre Père qui nous aime et que nous aimons. Donc, voyez, mes très chers frères, il y a dans cette notion de pasteur, de bon pasteur, telle que nous l'avons vu de très rapidement, il y a dans cette notion fondamentalement la notion de l'amour. Dieu nous aime et en réponse, nous aimons Dieu qui nous a aimés le premier. Le Christ nous aime et il a donné sa vie pour nous. C'est pour cela que le bon pasteur se compare négativement au mercenaire. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, dit notre Seigneur, mais le mercenaire est celui qui n'est point le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Notre Seigneur se met en peine de nous. C'est cela qu'il faut comprendre lorsque nous parlons du bon pasteur. Notre Seigneur se met en peine de nous parce qu'il nous aime. Nous savons que le thème du bon pasteur, le thème de la brebis, est un thème qui est absolument universel tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est une expression qui revient constamment. Et dans l'Ancien Testament aussi, et l'on voit même que nos patriarches étaient des pasteurs eux-mêmes, et que le premier des patriarches, le premier après Adam, le premier le plus grand, celui qui est comparé au Christ, Abel, le patriarche Abel, était lui-même un pasteur. Donc le thème du pastorat, de la pastoralité, est quelque chose qui est extrêmement commun dans l'Écriture. Nous devons faire très attention, et je le rappelle à chaque fois, faisons attention de ne jamais utiliser le mot mouton, brebis, etc. en mauvaise part. Nous tomberions dans ce travers de langage qui fait que les chrétiens se portent un coup fatal lorsqu'ils disent on n'est pas des moutons. Comment on n'est pas des moutons? Nous sommes les brebis du Seigneur. Vous allez dire, on n'est pas des moutons, du gouvernement, etc. Laissez le gouvernement, laissez toutes ces choses, laissez les morts, paître les morts, si j'ose dire. Nous sommes véritablement les brebis du bon pasteur. Si nous utilisons d'une façon méprisante, même sous réserve de bien comprendre cette notion, ce symbolisme de la brebis, nous coupons l'herbe sous les pieds, que cela n'arrive jamais, mes très chers frères. Si vous voulez vous exprimer, utilisez d'autres termes s'il en existe, et de toute façon, faites très attention à vos paroles, parce que, vous le savez, nous serons jugés sur chaque mot qui sera sorti de notre bouche. Donc, Deus, c'est notre Père, c'est notre pasteur, c'est-à-dire celui qui nous aime. Si nous avons expliqué ces choses, c'est pour revenir à cette interpellation de Dieu. Deus, ô Dieu, Dieu qui nous aimait, Dieu qui est notre bon pasteur, Dieu qui est le père de notre bon pasteur, Dieu qui entretenait avec nous une relation toute particulière, qui est une relation d'amour. Deus qui infilitui, Dieu, ô Dieu qui par les abaissements de votre Fils, dit qui infilitui humilitate, tercentem unum erexisti. Vous qui avez relevé le monde par l'humilité, l'abaissement de votre Fils. Il y a quelque chose ici de très important. C'est-à-dire que nous avons pris le temps de montrer que le pasteur est celui qui aime les brebis qui lui appartiennent. Et en même temps, mes très chers frères, il se trouve que notre Seigneur Jésus-Christ est donné par saint Pierre au pasteur, ici et ailleurs bien entendu, comme modèle aux pasteurs, les pasteurs de l'Église par exemple, mais aussi les pasteurs des familles, c'est-à-dire les pères, et puis par extension les mères, tous ceux qui sont supérieurs de quelqu'un, ont pour modèle le bon pasteur. Le bon pasteur, c'est celui qui aime, mais il aime d'un amour qui est efficace. Si vous aimez quelqu'un et que dès qu'il y a un problème, vous ne l'aimez plus, comme ça se voit dans le monde, vous ne pouvez pas être dit aimé véritablement. L'amour est à l'épreuve des épreuves, justement. À l'épreuve des choses qui, comme on dit, sont les tue l'amour. Donc, notre Seigneur, le bon pasteur, est le modèle des pasteurs, dans le sens où il est le bon pasteur qui aime ses brebis et qui les a relevées par son humilité. L'humilité du Fils a été la condescendance, dans le bon sens du terme, la condescendance par laquelle le Fils éternel est descendu du ciel, sous un certain rapport, pour s'incarner, être fait péché pour nous, c'est-à-dire lui qui n'a pas commis le péché, il a été fait péché pour nous, afin que portant le poids et la dette et le châtiment de notre péché, nous puissions être pardonnés par ce Dieu qui ne peut pas faire autrement que punir le péché, puisque c'est dans sa nature de devoir punir le péché. Pourtant, dans sa nature, il y a aussi l'amour, qui fait que ce péché qu'il a voulu nous pardonner à nous, il l'a fait expier par son propre Fils. Fils qui est le modèle des pasteurs. L'amour que les pasteurs, toutes sortes de pasteurs, toutes formes de pasteurs, doivent avoir pour ceux qui sont symboliquement leurs brebis, doit être un amour sacrificiel. C'est un amour qui ne doit pas simplement être un amour de parole, c'est un amour qui doit être un amour dans les actes et jusqu'au fait de donner sa vie pour les brebis. Il y aurait ici bien des choses à dire si c'était par exemple un sermon d'ouverture d'un concile, par exemple, un sermon adressé à des pasteurs, et il y aurait bien des choses à dire et bien des choses fortes aussi à dire, mais il ne convient pas que les pères soient repris devant les enfants. Donc nous parlons simplement ici des pasteurs en général et de notre bon pasteur en particulier, puisque tout le monde, à un certain point, ou presque tout le monde, peut s'identifier d'une manière ou d'une autre à ce bon pasteur. Donc c'est un bon pasteur qui nous aime et qui a fait quelque chose qui lui a coûté pour notre salut. Et ce n'est pas rien, nous n'y reviendrons pas parce que nous en avons abondamment parlé précédemment dans le cadre de la Semaine Sainte, mais il se trouve que l'amour dont il nous a aimés lui a coûté, puisqu'il lui a coûté déjà son abaissement, n'oublions pas que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, son abaissement, mais aussi sa passion, sa mort, de telle sorte que la résurrection vienne parfaire tout ce qu'il a souffert pour nous, tout ce qu'il a enduré pour l'amour de nous, afin de nous racheter. Quos redemisti tu conserva Christi. Ce que vous avez racheté, conservez-les aussi, ô Seigneur Jésus-Christ. Le bon pasteur qui nous a enseigné les maximes de l'Évangile n'est pas un philosophe, comme on a pu le voir dans l'Antiquité ou même dans les temps modernes, un philosophe méprisant la plèbe, qui va semant des paroles extrêmement complexes ou alors d'une morale extrêmement haute et inaccessible, comme on pouvait le voir chez certains philosophes par exemple, et méprisant tous ceux qui sont trop imbéciles pour pouvoir le comprendre. Ce n'est pas cela notre Seigneur. Notre Seigneur nous a enseigné les maximes sublimes de sa doctrine, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain, et tout ce qui va avec. Mais notre Seigneur n'est pas un philosophe méprisant la plèbe, mais un Dieu venant chercher ceux qui sont à lui. Ceux qui sont à lui et qui ne le savent pas. Sachant qu'il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis, il nous a réconciliés avec lui alors que nous étions volontairement, ou en tout cas que nous jouissions de notre plein gré, de cette séparation qui nous séparait de Dieu, qui faisait de nous des enfants de colère, nous qui étions destinés, par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu, à être des enfants d'adoption. Considérons toujours, mes très chers frères, l'abaissement de ce Dieu qui nous a aimés. L'abaissement de ce Dieu qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous sur la croix, a manifesté la puissance, et pour nous, manifestation de la puissance de résurrection, qui nous est communiquée spécialement par le baptême. Lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous avons été baptisés, ou lorsque nous serons baptisés, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous recevons le baptême, la puissance de la résurrection du Christ nous est communiquée, non sans que nous soient appliqués aussi les mérites de sa mort, et de sa passion et de sa mort. Si nous sommes baptisés, nous sommes entièrement, tout ce que le Christ a mérité pour nous, est versé à notre crédit, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que le baptême fait de nous les membres de ce Fils éternel de Dieu, de ce Dieu qui nous a tant aimés et qui est mort et ressuscité pour nous. Il nous communique la puissance de la résurrection. Ce n'est pas rien que d'être baptisé, c'est une chose qu'il nous faut désirer si nous ne sommes pas baptisés, c'est une chose pour laquelle il nous faut rendre grâce à Dieu lorsque nous en avons bénéficié. Car c'est une chose très rare, surtout aujourd'hui, et de toute façon, même quand c'était une chose commune, c'est une chose pour laquelle nous devons être, c'est une réalité pour laquelle nous devons être infiniment reconnaissants. Pourquoi est-ce que nous devons en être infiniment reconnaissants? Eh bien, ce n'est pas simplement parce que Dieu, par son Fils, a voulu nous adopter, mais il nous l'a voulu nous redresser, nous relever, nous qui étions Iacentem, dans le Iacentem Mundum, nous qui étions ce monde gisant. Alors, certains, mes très chers frères, trouveront que l'Église a commis ici une grossière erreur théologique, et c'est fort possible parce que, après tout, Pie XII disait que l'Église peut, dans sa liturgie, commettre de graves erreurs. Donc, il se trouve que certains diront, mais non, Iacentem Mundum, c'est une extrapolation augustinienne, c'est quelque chose de tout à fait monstrueux, c'est une erreur, c'est un contresens. Le monde décrit ici comme le monde gisant, et cette fois-ci il est bien traduit dans la traduction que j'ai sous les yeux, le monde qui se traînait dans la déchéance, pas du tout. C'est le monde tel que Dieu aurait pu le créer, dépourvu de grâce, dépourvu des dons surajoutés, en proie à la concupiscence, toute chose parfaitement naturelle, chose parfaitement naturelle. Donc, le Christ est venu, il s'est incarné pour nous, il a souffert, il est mort et il est ressuscité, pour que, de naturel, nous passions à un état relativement meilleur, sachant que l'état naturel est un état qui résulte de la volonté de Dieu et qui est très bon en soi. Vous voyez? Donc l'Église se trompe complètement. Ou alors peut-être c'est vous qui vous trompez, mes très chers frères. Ou peut-être c'est la théologie que vous suivez qui se trompe complètement. Peut-être que vous avez été trompé, peut-être que vous êtes les gogos du siècle, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous êtes complètement trompé par une théologie qui n'est pas catholique. Parce que nous sommes catholiques et nous prions ce que l'Église nous donne de prier. Et elle nous dit que Dieu, par l'humilité de son Fils, par l'abaissement de son Fils, a relevé le monde de la déchéance où il se traînait. Et effectivement, le monde, c'est-à-dire le petit monde, c'est-à-dire l'homme, lorsqu'il a perdu l'état d'innocence, il a tout perdu. Lorsqu'il a perdu l'état d'innocence, il est tombé, il s'est fragmenté, il est tombé dans une misère extraordinaire. Lorsqu'il a perdu ses dons surajoutés, il est devenu moins qu'un homme. Car, comme disait un philosophe qui ne disait pas que des bêtises, il disait « l'homme qui n'est plus qu'un homme est déjà moins qu'un homme ». Vous voyez, il y a une grande vérité dans ceci. L'homme qui n'est plus en état d'innocence, l'homme qui n'est plus orné de tous ces dons surajoutés qui constituaient l'état dans lequel Dieu a créé l'homme, l'homme qui a perdu tout cela n'est pas simplement un homme, après tout, simplement naturel, c'est un monstre, c'est une ordure, c'est un déchet, c'est quelque chose que l'on ne peut pas regarder sans une grande horreur, sans une grande peine, sans une grande honte. Et lorsqu'on est un Dieu qui a créé un homme dans un état aussi parfait et qui regarde cet homme déchu par sa propre volonté, il ne peut pas le regarder sans colère. Parce que l'artiste qui fait une œuvre d'art, quand c'est un vrai artiste et que c'est une vraie œuvre d'art, eh bien, et qui voit que cette œuvre d'art est vandalisée, ne peut être qu'en colère contre ce qui est fait. Encore faut-il qu'encore une fois que ce soit un vrai artiste. Maintenant, il se trouve que Dieu a surmonté, si l'on peut dire, sa propre colère, non pas en l'oubliant, mais en la faisant s'abattre sur son Fils, afin que ceux qui avaient profané la nature humaine, en réduisant le monde à la déchéance dans laquelle il se traînait, puissent être réconciliés avec lui. Voyez, mes très chers frères, comme dit saint Jean, voyez comment Dieu nous a aimés. Le monde était en quelque sorte, pour paraphraser Bossuet et pour parler un peu comme un peu vulgairement, le monde était éclaté par terre, en mille morceaux. Et c'est pour cela, et c'est pour le rassembler ces morceaux éparpillés que le Christ est venu. C'est pour rassembler ces épis disséminés en une gerbe qui plaise à Dieu, rassembler ces brebis qui erraient dispersés sur les montagnes, comme dit le prophète, c'est pour les rassembler que le Christ est venu. C'est pour cela que dans la notion de bon pasteur, il y a non seulement la notion de roi, de maître, non seulement la notion d'amour, mais aussi d'amour agrégatif. Dieu, par le ministère de ses pasteurs, des pasteurs de l'Église, agrège à l'Église, il ramène à l'Église les éléments épars qui errent dans le monde, qui se prennent pour des catholiques, ou alors qui ne se prennent pas du tout pour des catholiques, il agrège. C'est une des tâches des pasteurs, à l'imitation du bon pasteur, que de rassembler avec le Christ. Le mercenaire n'assemble pas avec le Christ, c'est le Christ lui-même qui le dit, il disperse. En encourageant les militants à militer, on disperse de plus en plus, on disperse. Il faut rassembler, il faut assemblés avec le Christ, mes très chers frères. Et cela ne peut se faire que dans la mesure où on est dans l'Église, soumis au pasteur légitime et pasteur légitime soi-même. Il y aurait bien des choses à dire, mais nous sortons de notre sujet. Ô Dieu qui, par l'abaissement de votre Fils, avait redressé le monde, avait tiré le monde, relevé le monde de la déchéance dans laquelle il se traînait. Que signifie Rexisti ? Vous l'avez relevé. Ça signifie vous lui avez rendu sa dignité, qui est liée à la surnaturalisation de la nature. L'homme qui ne serait qu'un homme naturel, comme dit saint Paul, l'homme naturel, est un homme qui est infranaturel, car la nature de l'homme, qui est, je vous le rappelle, une créature faite à l'image de Dieu quand même, ce n'est pas un bœuf, ce n'est pas un lion, etc., c'est un homme, il est fait explicitement à l'image de Dieu. La nature, l'état naturel de l'homme, c'est d'être surnaturalisé, c'est d'être dans cet état d'amitié surnaturelle avec Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux quand on considère ce qu'était l'état d'innocence, il y a quelque chose d'encore plus merveilleux lorsqu'on considère ce qu'est l'état d'enfant de Dieu, l'état de grâce. Mes très chers frères, Dieu nous a rendu la dignité liée à notre nature. Par le baptême, nous sommes sortis de l'état profane et nous avons commencé par être faits tous des laïcs, c'est-à-dire des êtres surnaturalisés, des êtres divinisés, des êtres sacralisés, des êtres qui sont tout sauf profanes. Ensuite, certains de ces laïcs ont reçu les saints ordres pour accéder à des fonctions de pasteur, mais nous sommes tous, le plus petit des chrétiens, le tout petit enfant qui vient de naître, est un vivant, alors que ceux qui ne sont pas baptisés sont morts, mes très chers frères. Et le fait d'être vivant, c'est une grâce, c'est une dignité du chrétien à laquelle il ne faut jamais, de laquelle il ne faut jamais se départir et qu'il ne faut jamais considérer comme allant de soi ou comme étant peu de choses. On ne peut se tenir debout, mes très chers frères, que par l'œuvre de la grâce. Le monde gisait dans une déchéance où il se traînait. Le Fils de Dieu est descendu du ciel afin de nous relever et de nous faire nous tenir debout sur nos pieds, comme lorsque Daniel, s'étant abattu par terre, terrorisé par la vision qu'il voyait, a reçu ce souffle de l'ange qui l'a fait, cet attouchement de l'ange qui l'a fait se tenir sur ses pieds. Et il s'est tout d'un coup tenu droit sur ses pieds. Nous-mêmes, par la grâce de Dieu, nous nous tenons droit sur nos pieds. Alors je ne parle pas comme on dit d'une façon vulgaire, droit dans ses bottes. Nous sommes droits alors que le monde entier gît dans la déchéance. Il y a de quoi, non pas mépriser le monde parce que nous en faisions partie, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir parce que nous ne méritons pas d'avoir été relevés, il y a de quoi, mes très chers frères, uniquement, et c'est l'essentiel, être dans la gratitude, être reconnaissant envers ce Dieu qui non seulement nous a aimés théoriquement, mais qui a tout fait pour nous manifester son amour et nous fonder et nous enraciner dans son amour. Il nous a rendu notre dignité. Mes très chers frères, on ne peut pas dire que le Christ a oublié de faire certaines choses qui nous auraient laissé pour compte. Le Christ n'a rien épargné, puisque nous savons qu'il a versé jusqu'à la dernière goutte de sang pour notre salut. Nous devons correspondre à la grâce qui nous a été faite, d'autant plus que nous le pouvons, puisque nous sommes baptisés. Nous avons reçu cette grâce première qui nous rend capables de réagir et de profiter de la grâce. Il ne faut pas, mes très chers frères, oublier que la grâce première nous a été donnée et que désormais nous sommes dans ce cercle vertueux. Il y a tellement de cercles vicieux, mais il y a aussi des cercles vertueux, ce cercle de vertueux qui consiste à, ayant reçu la grâce, pouvoir profiter de cette grâce et mériter ainsi, par la grâce, d'autres grâces plus grandes qui nous amèneront plus loin. Nous demandons à Dieu, Fidelibus tuis, perpetuam concede laetitiam. Ô Dieu, notre bon pasteur, accordez une joie perpétuelle, une joie éternelle, une joie perpétuelle, fidelibus tuis. Nous disions que cette oraison concerne spécialement les chrétiens. Les oraisons, en général, concernent toujours les chrétiens. Mais ici, nous voyons que Dieu, si parfois nous prions pour les hommes en général, nous prions pour l'humanité, nous prions que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut, ça c'est notre prière, bien entendu. Ici, nous demandons à Dieu, pour les chrétiens, qu'il leur concède, qu'il leur accorde, une laetitia perpétua, une joie perpétuelle. Nous demandons à Dieu pour ses fidèles. C'est uniquement pour les chrétiens. Il n'y a pas de communication de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ aux hommes qui vivent sans Dieu hors de l'Église. Il y a bien sûr des grâces d'amorce, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a des grâces d'amorce, bien sûr, mais il n'y a pas de grâce salvifique. Vous voyez, contrairement à ce que disent certains qui finalement sont hérétiques, il n'y a pas de grâce sanctifiante en dehors de l'Église. Hors de l'Église, pas de salut, pas de grâce, pas de vie. La grâce sanctifiante. Il y a encore une fois les grâces d'amorce, bien entendu, mais si nous recevons vraiment la grâce qui doit être une grâce pour la grâce qui procède de la grâce efficace, alors nous sommes d'une manière ou d'une autre conduits à l'Église, nous y sommes introduits par le baptême et nous y prospérons comme dans la vigne du bon Dieu, comme dans la bergerie, le bercail du bon pasteur. Il n'y a pas de grâce sanctifiante en dehors de l'Église. Le propre des enfants de Dieu, auxquels Dieu leur accorde ce qu'il leur demande, c'est de jouir de cette joie sempiternelle, cette joie perpétuelle. Qu'est-ce que c'est que cette joie perpétuelle, mes très chers frères? C'est la joie de recevoir la grâce efficace. Notre joie, ici-bas, c'est d'être enfant de Dieu. C'est de vivre en la communion avec notre Père, mais aussi avec nos frères. Vous allez dire, mais il y a tellement de gens qui se disent catholiques et qui je ne sais pas exactement, est-ce que je dois les considérer comme des frères, etc. Font-ils partie du bercail du bon pasteur? Mais comment le savoir? Mes très chers frères, si vous êtes catholiques, vous avez nécessairement des pasteurs légitimes. J'imagine que vous n'êtes pas des gens qui vont faire leur cours sacramentel dans des centres de messe où ils leur apportent de l'Eucharistie, de l'absolution, un petit peu de confirmation, etc. Non, vous êtes... Alors, regardez bien, tous ceux qui sont en même temps que vous soumis au pasteur légitime sont vos frères. Et les autres, eh bien, il faut prier pour eux pour qu'ils deviennent catholiques. Vous êtes catholique puisque vous êtes soumis au pasteur de l'Église. C'est la définition du catéchisme. Qu'est-ce qu'un catholique? C'est quelqu'un qui est baptisé, qui est soumis au pasteur légitime. Vous êtes soumis au pasteur légitime? Oui. D'autres que vous sont soumis au pasteur légitime? Oui, on espère bien. Donc, ce sont vos frères. Vous devez vivre. Votre joie consiste à vivre dans la communion avec votre Père et avec vos frères. Ces frères, il faut les supporter, ils sont parfois un peu pénibles, mais ce sont des catholiques, ce sont des chrétiens, ce sont nos frères, il faut les supporter, il faut les aimer, et les auteurs nous disent qu'il faut même, à l'imitation du bon pasteur, être prêt à donner sa vie pour eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En tout cas, ça veut dire qu'il ne faut rien épargner pour leur faire du bien, pour les aider à tout niveau, pour leur faire du bien, pour leur communiquer, ne serait-ce qu'en priant pour eux, les grâces que nous recevons, sachant que si nous prions pour eux, eux aussi prient pour nous, comme nous le disions la dernière fois, et priant les uns pour les autres, nous faisons tous partie, nous manifestons que nous sommes tous membres d'un même corps qui, comme dit notre Père Saint-Augustin, n'a qu'une seule bouche par laquelle il prie, et la bouche, c'est la bouche de notre Seigneur, c'est notre Seigneur lui-même. Mes très chers frères, cette joie perpétuelle que nous demandons à Dieu pour ses fidèles, c'est-à-dire pour nous, que l'Église nous fait demander pour ses fidèles, c'est-à-dire pour nous-mêmes, eh bien, c'est la joie d'être enfant de Dieu, de vivre dans la communion avec notre Père et avec nos frères. Nous devons nous savoir aimer de Dieu et garder par lui, par le moyen des pasteurs légitimes. Vous comprenez aussi que tous ces gens qui sont les champions de l'Église et qui vivent dans l'inquiétude, qui vivent dans le tremblement perpétuel, et je ne parle pas de la crainte de Dieu, je parle des gens qui sont guidés par des pasteurs qui n'en sont pas, des pasteurs qui leur recommandent, je voyais ça encore, mais il y en a plusieurs, je ne jette pas la pierre à quelqu'un en particulier, si j'ose dire, je décris un fait partout, qui leur recommandent, pour mieux comprendre la situation, d'aller écouter des gens, des analystes de la situation, etc., qui ne sont pas du tout catholiques, qui sont même anti-catholiques, qui vont vous expliquer par A plus B tout ce qui se passe alors qu'ils n'en savent rien, en réalité, et qui de toute façon ne sont pas autorisés à parler parce qu'ils ne sont pas catholiques, ne serait-ce que ça, et ces fidèles qui vivent dans la terreur, dans le tremblement, ces fidèles qui tombent malades, ces fidèles qui font des séjours en asile psychiatrique, pourquoi? Parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes par des pasteurs qui sont en réalité des mercenaires. Ce sont des mercenaires qui se font fort de décrier les pasteurs légitimes en disant que de toute façon il n'y a plus de pasteurs légitimes, je veux bien, mais enfin c'est leur opinion, je la respecte d'une certaine manière, mais ils ont tort en réalité. Ce sont des gens qui, ce sont des mercenaires qui, voyant venir le loup, leur confient les brebis afin que les brebis s'aguerrissent et qu'elles deviennent plus fortes. Selon la formule de Nietzsche, vous savez, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui, mais le problème, c'est qu'un loup tue la brebis. Et une brebis qui, par hasard, ne serait pas tuée par un loup, ben, c'est très simple. Alors vous allez dire, c'est une brebis très forte. Non, c'est un loup. Non, c'est un loup, mes très chers frères. C'est un loup déguisé en brebis. Alors, je sais que c'est une expression que notre Seigneur utilise et qu'on utilise spécialement pour les gens qui sont dans la néo-église, mais il se trouve qu'il n'y a pas que François qui est un loup déguisé en brebis. En réalité, c'est un loup tout court, c'est même pas déguisé en brebis. En revanche, il y a plein de loups déguisés en brebis et plein de brebis qui ne sont que des loups, qui se croient catholiques, qui se disent catholiques et qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas du tout. Mais ça, c'est un autre problème. Restons dans le bercail du bon pasteur, dans la bergerie du bon pasteur. Nous devons comprendre, mes très chers frères, que dans la mesure où nous restons dans cette bergerie, nous pouvons recueillir l'exaucement de notre prière et effectivement recevoir cette joie perpétuelle. Cette joie qui vient de la grâce efficace qui nous est donnée par notre Seigneur, de telle sorte que nous fait dire l'oraison, c'est la fin, et nous passons rapidement car nous avons encore d'autres choses à dire, de telle sorte que combler les vos fidèles d'une joie sans fin, en donnant à ceux que vous avez arrachés au péril d'une mort éternelle, de jouir du bonheur de l'éternité. Nous demandons simplement, mes très chers frères, que la joie qui est la joie d'être chrétien, la joie d'aimer Dieu et d'aimer nos frères ici-bas, se poursuive au-delà de la mort dans la vie éternelle. C'est tout simplement cela que nous demandons. Nous demandons que les mérites du Christ nous soient appliqués d'une façon si efficace que nous puissions en jouir dès ici-bas et en jouissant dès ici-bas, en profitant dès ici-bas, obtenir la vie éternelle. Voilà ce que nous demandons, tout simplement, la persévérance dans le temps et dans l'éternité. Alors, vous allez dire, eh bien écoutez, c'est très bien, nous avons compris, c'était un beau sermon, maintenant tenons-nous-en là, parce que vous gâcheriez, puis de toute façon le temps passe, etc. Attendez, non, oui, c'est trop facile, on fait des beaux sermons. En réalité, la plupart des sermons ressemblent à des introductions à des sermons, c'est une sorte de sommaire. Et les fidèles, malheureusement, enfin les fidèles, ceux qui se croient fidèles, disent, voilà, c'est très bien, c'était un beau sermon, et c'est un sermon d'autant plus beau que, d'une certaine manière, ou bien il nous a confortés dans notre désordre, ce n'est pas le cas, ou bien il s'en est tenu simplement à des vérités d'ordre général auxquelles nous adhérons, mais gare à celui qui nous mettra le pied à l'étrier. Eh bien, mes très chers frères, c'est ce que nous allons faire maintenant, et nous passons à notre deuxième point, ce n'est pas du tout fini, ce n'est pas encore fini. Saint Pierre nous dit ceci dans l'Épître. « Mes bien-aimés, le Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous marchiez sur ses pas. » Il nous faut, mes très chers frères, examiner comment toutes ces belles choses que nous avons vues, comment cette joie qui vient de la jouissance de la grâce efficace, la grâce sanctifiante, comment cette joie qui nous vient de l'amitié de Dieu et qui nous vient de l'amitié avec Dieu, l'amour pour Dieu et pour nos frères, cette joie qui est véritablement la nôtre puisque nous sommes les enfants de Dieu, eh bien, mes très chers frères, comment elle peut se conserver ? Car c'est une chose que de savoir qu'on peut avoir une chose, et c'en est une autre que d'en jouir de cette chose. Eh bien, mes très chers frères, Saint-Pierre nous dit directement quelque chose qui, évidemment, fait mal au vieil homme. Le Christ a souffert pour nous. Bon, jusque-là, le vieil homme est content. Vous laissant un exemple métaphorique, non, afin que vous marchiez sur ses pas. Et le vieil homme qui freine toujours dit, voilà, j'ai compris, c'est très bien, il faut imiter le Christ d'une certaine manière autant qu'on peut, parce qu'en réalité, je ne suis pas le Fils de Dieu descendu du ciel, donc du coup, je vais l'imiter, ne vous inquiétez pas, laissez-moi tranquille. Non, attendez, parce que Saint-Pierre sait très bien comment réagit notre vieil homme. Le vieil homme, lorsqu'il est un peu, il a pris déjà quelques coups, tout d'un coup, il devient chrétien. Tout d'un coup, il admire le Christ, il se prosterne devant les crucifix, et il dit, c'est le Christ qui a souffert pour moi. Et il dit même, du bout des lèvres, c'est vrai, il m'a laissé un exemple pour que je marche sur ses pas. Tenons-nous-en là. Non. Saint-Pierre nous dit, lui qui n'a pas commis le péché et dans la bouche duquel il n'y eut rien de trompeur, lui qui injuriait ne rendait point d'injure et maltraité ne faisait point de menace, mais se livrait à celui qui le jugeait justement. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Et ce sont ces plaies qui nous ont guéris. Mais très chers frères, tout ce que nous avons dit de cette joie qui vient de l'amitié avec Dieu et de l'amour que nous avons pour nos frères, tout ceci ne peut être vrai si cela ne passe pas, ça ne passe pas par l'épreuve de la fournaise, l'épreuve de la tentation, l'épreuve de la mise à l'épreuve, justement. Le Christ a souffert, et un auteur nous dit, ne comprendrons-nous jamais que nous ne sommes chrétiens que pour être crucifiés avec Jésus-Christ? Faut-il persuader à un disciple qu'il doit ressembler à son modèle et imiter son maître? S'il est vrai qu'être appelé au christianisme, c'est être appelé à souffrir, qu'est-ce donc un chrétien impénitent, un chrétien délicat, impatient, et dont tout le soin est de ne pas souffrir? Voilà ce que nous disent les commentateurs, commentant, paraphrasant ce qui est dit dans l'épître de Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'un chrétien qui ne fait pas pénitence? Qu'est-ce qu'un chrétien qui ne veut pas souffrir? Qu'est-ce qu'un chrétien qui n'imite pas notre Seigneur Jésus-Christ? Et ne disons pas, je ne suis pas le Fils de Dieu, je n'ai pas à souffrir pour les péchés du monde. C'est vrai, mais il se trouve que vous avez à souffrir afin que l'application des mérites de la passion et de la mort et de la résurrection de notre Seigneur vous permette d'expier les péchés. Alors vous allez dire, mais est-ce que les péchés n'ont pas été expiés par ce Christ? Est-ce que j'ai besoin encore de les expier moi-même? Non, vous n'avez pas compris. Vous parlez comme un protestant en réalité. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que, mettons que les péchés du Christ, pour parler d'une façon technique, les mérites du Christ, pas les péchés du Christ, les mérites du Christ qui a expié nos péchés, sont à l'expiation de nos péchés ce que le décapant est au meuble plein de vieilles peintures. C'est-à-dire que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous débarrasser de ces péchés qui sont représentés ici par la vieille peinture. Il se trouve que nous avons besoin d'un décapant, que ce décapant est approprié à la nature de nos péchés, c'est-à-dire que ce décapant a été fait, les mérites du Christ ont été faits exprès pour les pécheurs, de telle sorte que, étant appliqués, les mérites du Christ étant appliqués à nous, nous puissions être véritablement et concrètement, expérimentalement, si l'on peut dire, décapés de nos péchés. C'est-à-dire que par le baptême, les mérites du Christ nous sont appliqués, nous devenons enfants de Dieu. Et grâce à cette efficace que nous n'avions pas autrefois, puisque nous gisions dans cette déchéance dont il est mention dans l'oraison, il se trouve que désormais, cette application, comme on applique un décapant, si j'ose dire, pour ceux qui travaillent, comme on applique un décapant, est en train de faire d'avoir un effet efficace sur moi. Et quel est l'effet du décapant? C'est pas simplement de faire souffrir le meuble ou de le rendre ridicule en étant tout badigeonné d'une substance malodorante et bizarre qui fait des bulles et qui se comporte d'une façon qui fait que le meuble ne sert plus à rien puisqu'on ne peut plus le toucher. Non, ça c'est provisoire. Le décapant est appliqué sur la vieille peinture jusqu'à ce que la vieille peinture soit partie et que le meuble retrouve entièrement sa dignité. Les mérites du Christ nous sont appliqués, de telle sorte que nous puissions, avec l'aide de Dieu qui vivifie les parties qui étaient mortes autrefois en nous, c'est-à-dire notre volonté, notre courage, notre capacité de faire notre libre arbitre, etc., capacité de faire des choix, etc., eh bien, nous puissions nous décaper ou nous laisser et collaborer à ce décapage qui fait de nous des êtres nouveaux à la gloire de Dieu. Le baptême est une application des mérites du Christ, et toute la vie chrétienne doit être une appropriation de ces mérites du Christ que nous n'avions pas avant d'être baptisés. Donc vous voyez, mes très chers frères, c'est être errant que de ne pas marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ que de refuser de souffrir avec lui. Et c'est là où effectivement le vieil homme nous lâche, il n'en peut plus, il dit non franchement là ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le problème c'est que justement l'application des mérites du Christ nous permet de décaper le vieil homme, pour reprendre la comparaison que nous faisions. C'est-à-dire que cela nous permet de ne plus être cet être errant que nous étions autrefois et que nous désirerions être toujours tout en jouissant de, je ne sais pas, la vie éternelle ou la perspective du salut, que sais-je. C'est impossible. Ou bien on est errant et on est loin du bercail, ou bien on est dans le bercail, et alors il faut se conformer au bon pasteur. Et pour se conformer au bon pasteur, eh bien, il faut subir tout ce qui, de simple brebis galeuse, si l'on peut dire, nous va nous faire devenir un agneau pascal digne d'être sacrifié au Dieu Tout-Puissant. C'est être errant que de ne pas marcher sur les pas de notre bon pasteur. L'abaissement d'un Dieu, mes très chers frères, est l'efficace, nous l'avons vu, du relèvement d'une créature qui gisait dans la déchéance. On craint de souffrir comme si le Christ, souvenez-vous ce que disait Saint Prosper, je pense, on craint de souffrir comme si le Christ n'avait pas souffert avant nous, comme s'il ne nous donnait pas sa force à tout moment pour souffrir en lui. Mes brebis me connaissent, dit notre Seigneur. Mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Christ nous aime tant qu'il ne veut pas nous laisser dans cet état de déchéance dans lequel il nous a trouvés, dans lequel il nous a aimés, mais dans lequel il ne veut pas nous voir perdurer. Si il nous aimait, si vous aimez un ami qui est dans la misère, et que vous lui donnez un coup de main de temps en temps, mais que vous le laissez dans la misère, vous ne l'aimez pas vraiment. Car si vous l'aimez vraiment, vous voulez le faire sortir de cet état de misère, d'une manière ou d'une autre. Le Christ nous a aimés dans notre misère, mais il ne veut pas que nous nous complaisions dans notre misère. Sinon, nous faisons injure à sa passion, qui est tellement efficace pour nous, que Saint Pierre dit même que c'est même par ses plaies que nous avons été guéris. Donc, même si le Christ n'avait fait que subir quelques plaies, nous aurions été guéris. Alors, a fortiori, sa crucifixion, sa flagellation, etc., comme vous le savez. Mes brebis me connaissent. Ce n'est pas, c'est ne pas connaître notre Seigneur Jésus-Christ que d'être effrayé par la voix du pasteur et attiré par celle des loups. Lorsque notre Seigneur dit « Marchez à ma suite », et pour marcher à ma suite, il vous faut souffrir, et nous allons y venir dans un instant, et que nous disons « Je ne connais pas cette voix, mais quelle est cette voix horrible qui me parle ?» Et j'entends quelqu'un qui ulule doucement, et ça m'est beaucoup plus agréable à l'oreille. Effectivement, qu'est-ce que nous manifestons? Nous ne sommes pas d'une brebis du Christ, puisque nous ne connaissons pas la voix du bon pasteur. Si nous connaissons la voix du bon pasteur, alors nous savons que, quel que soit le contenu des paroles que cette voix formule, c'est la voix du bon pasteur. Si le bon pasteur dit, il faut que vous marchiez sur mes pas et que vous souffriez à mon image, eh bien, nous disons, c'est la voix du bon pasteur, je le reconnais. C'est sûr que c'est effrayant ce qu'il nous dit, mais c'est la voix du bon pasteur, je lui fais confiance. En revanche, le loup ne va pas nous dire, il faut souffrir, il va nous faire souffrir. Il va nous faire souffrir cruellement pour nous emmener avec lui en enfer. Donc ce n'est pas la voix du bon pasteur que l'aboiement, que le hurlement du loup. Le bon pasteur, quoi qu'il dise, a toujours raison. Pourquoi? Parce qu'il est le bon pasteur et qu'il est le pasteur. Il nous aime, et non seulement il nous aime, mais il nous aime d'une façon qui est bonne. C'est une sorte de redondance merveilleuse qui montre à quel point nous ne devons pas avoir peur du bon pasteur. La voix du bon pasteur, qui nous transforme en lui, vient à nos oreilles. Comment? Vous allez dire, mais justement, par l'évangile, oui, bien entendu. Elle vient à nos oreilles, oui, bien entendu, par nos oreilles, par l'évangile, mais elle vient concrètement à nos oreilles. Comment? Qui a jamais entendu le Christ? Nous ne sommes pas tous saint Paul, nous ne sommes pas tous tel ou tel saint privilégié. Donc, et de toute façon, ce n'est pas ça, ce n'est pas la voix du bon pasteur, ce sont des révélations privées. Je ne parle pas de saint Paul, bien entendu, mais la voix du Christ, nous l'entendons tous les jours. La voix du bon pasteur. Qu'est-ce que c'est que la voix du bon pasteur? Imaginez la voix du bon pasteur qui est en train de guérir une brebis galeuse, une brebis pelée, une brebis qui vient de se brûler aux flammes de l'enfer, de la concupiscence. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui applique des désinfectants, elle se met à crier parce que ça la pique, ça la brûle. Que dit le bon pasteur? Il lui dit, c'est moi, n'aie pas peur, je suis en train de te guérir. Il dit, n'aie pas peur, je suis en train de te guérir, et que ressent la brebis? Il la fait souffrir. Mais est-ce que le bon pasteur la fait souffrir comme un loup qui plante ses crocs dans une brebis et qui la dévore vivante? Non, le bon pasteur la fait souffrir en lui appliquant l'huile et le vin dans ses plaies, qui lui font relativement mal, évidemment, parce qu'elle est dans une mauvaise situation, mais qui ne sont pas un acte de torture. Alors comment entendons-nous la voix du bon pasteur? Eh bien, mes très chers frères, alors, il faut comprendre que c'est la voix du bon pasteur qui nous guérit de notre concupiscence, qui nous guérit de notre ingratitude. La voix du bon pasteur, écoutez bien, mes très chers frères, la voix du bon pasteur qui nous transforme en lui vient à nos oreilles par les injures, par les mauvais traitements, par les injustices subies. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais se livrait à celui qui le jugeait injustement. C'est ça la voie du bon pasteur? Les injures des gens qui m'injurent, les mauvais traitements que les gens, même des fois mes frères, me font subir, c'est ça la voie du bon pasteur? Je ne suis pas engagé dans l'Église pour souffrir de la sorte, etc. Déjà, vous ne vous êtes pas engagé dans l'Église, c'est l'Église qui vous a agrégé à elle. Et si elle vous a agrégé à elle, c'est parce que le Christ vous a appelé. Et s'il vous a appelé, c'est qu'il vous aimait, mais en même temps, il vous aimait alors que vous, vous ne l'aimiez pas. Vous avez été converti. Vous voyez, on dit souvent « je me suis converti ». Sous un certain rapport, c'est vrai, il ne faut pas jouer sur les mots. Mais plutôt, j'ai été converti par la grâce. Si c'est ça, c'est pas ça que je suis venu chercher dans l'Église. Mais qu'êtes-vous venu chercher dans l'Église? Sinon, le support des injures, la souffrance, l'injustice. Vous allez dire, mais ce n'est pas ça l'Église. Non, ce n'est pas ça l'Église. Ça, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital, quelle Église pour ceux qui sont malades? Vous allez dire, mais je ne suis pas malade. Ah bon, vous n'êtes pas malade? Si vous n'étiez pas malade, vous subiriez les injures comme des compliments. Si vous n'étiez pas malade, vous ne vous rendriez pas compte qu'on est injuste envers vous, qu'on vous traite d'une façon injuste. Et si vous n'étiez pas malade, vous ne chercheriez pas votre plus beau trait pour renverser celui qui vous fait des menaces. Il faut bien se défendre. Mes très chers frères, vous êtes donc bien malades. La voix du bon pasteur qui nous guérit, la voix du bon pasteur qui nous transforme à lui, qui nous transforme en lui, vient à nos oreilles par les injures, par les mauvais traitements, par les injustices subies. Tout souffrir, nous devons tout souffrir en expiation de nos péchés, mes très chers frères. Il ne faut pas dire, bon, mais ces péchés, je les ai confessés, maintenant j'ai fait la pénitence, maintenant c'est fini, je n'ai plus besoin d'en parler. Nul ne sait la dette qu'il a envers Dieu. La seule chose que nous savons, c'est que nous pouvons l'éponger, cette dette, en puisant dans les trésors infinis du Christ auxquels nous sommes incorporés et identifiés par le baptême. Nous devons comprendre, mes très chers frères, que tant que nous ne comprenons pas que nous devons tout souffrir en expiation de nos péchés, et bien sûr, pour l'amour du Christ, pour le salut des âmes, bien entendu, mais ne nous prenons pas pour des saints trop rapidement. Tout ce que nous subissons, c'est le Christ lui-même, le bon pasteur dont nous connaissons la voie, qui nous le fait subir pour nous guérir de cette plaie horrible qu'est la concupiscence. La plaie de la concupiscence est telle qu'elle nous rendait monstrueux et désagréables à Dieu. Et le bon Dieu, néanmoins, nous a aimés au point de donner son Fils pour nous guérir. Maintenant, ce Fils, il faut le laisser nous guérir. Et c'est par l'application des mérites du Christ que nous sommes guéris. C'est par le fait de marcher dans ses pas, sur ses traces. Nous devons tout souffrir pour l'amour du Christ, c'est-à-dire lui dont nous connaissons la voie, sachant que tout cela n'est que le moyen de l'accession à l'union avec ce Dieu qui nous aime. Vous voulez être guéri? Oui, alors subissez les médicaments jusqu'à ce que vous soyez guéri. Vous allez dire, mais j'ai l'impression que ça va durer toute ma vie. Sous un certain rapport, oui, sous un certain rapport, il y aura toujours quelque chose à guérir tant que la vie sera là, puisque nous ne serons jamais fixés dans la paix et l'éternité bienheureuse que quand nous serons morts. Mais il se trouve que d'ici là, on peut très bien vivre une vie d'amitié, d'amour avec Dieu, d'intimité avec Dieu, sans avoir à souffrir péniblement comme nous souffrons lorsque nous résistons. Plus nous résistons au divin médecin, plus nous souffrons, puisque c'est nous qui nous soustrayons à cette médecine qui pourrait nous guérir rapidement. Plus nous résistons, plus nous souffrons. Moins nous résistons, plus rapidement nous comprenons que cette souffrance, en réalité, n'est jamais que l'opposé ou l'autre face de l'amour de Dieu, et cet amour qui engloutit tout, qui fait qu'en réalité, au bout d'un certain temps, la souffrance n'est plus une souffrance, puisqu'elle est noyée dans cet amour pour Dieu, que nous avons pour Dieu, de ce Dieu que nous aimons et dont nous connaissons la voie. Nous terminons, mes très chers frères, en voyant notre troisième point, ces paroles de Saint-Pierre, encore à la fin de l'Épître, « Car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes revenus au pasteur et à l'évêque de vos âmes. » L'errance, nous en avons dit un mot, c'est la poursuite de la volonté propre. C'est la poursuite de sa volonté propre qui n'est jamais satisfaite. Même si nous arrivions à faire exactement tout ce que nous voulions, nous finirions par nous en dégoûter parce que le fait de la nature humaine est que seul Dieu, seul l'accomplissement de la volonté de Dieu peut combler la nature humaine, la volonté humaine. La volonté humaine est ainsi faite qu'elle ne trouve son bonheur qu'en coïncidant avec la volonté divine. L'errance, c'est donc la poursuite de la volonté propre. Et c'est pour cela que Saint-Pierre dit erratis, enim sicut oves errantes, vous erriez comme des brebis errantes, sed conversi estis. Mais vous avez été convertis, vous êtes revenus. Vous êtes revenus. Comment est-ce que nous sommes revenus? Il y a deux aspects. Nous sommes revenus à Dieu dans la mesure où Dieu nous a aimés le premier et c'est lui qui a suscité en notre cœur cet incompréhensible désir de nous rapprocher de Dieu. Et ensuite, il y a l'accroissement de ce désir qui est manifesté dans le verset que l'on trouve dans l'offertoire. « Ô Dieu, mon Dieu, je veille et je vous cherche dès l'aurore. Alléluia. En votre nom, je lèverai mes mains. Alléluia. Je veille, je vous cherche. Ante deluce vigilo. Dès l'aurore, je vous cherche, mon Dieu. » Dieu nous a cherchés, nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu partout où il se trouve. C'est-à-dire dans le Saint-Sacrement, bien entendu, dans les bons livres, bien entendu, c'est vrai, dans nos frères que nous aimons, c'est vrai, mais aussi partout où Dieu s'avère notre médecin, c'est-à-dire dans les injures, dans les menaces, dans les mauvais traitements, dans tout ce qui nous fait souffrir, c'est-à-dire dans tout ce qui est une manifestation particulière de l'amour de Dieu à l'œuvre pour notre transformation. Si Dieu nous aimait simplement et nous aimait à nous montrer ses richesses, il serait comme un homme riche, un collectionneur d'art, qui prendrait des petits-enfants dans des petits pauvres dans la rue, des petits-enfants ou des pauvres, peu importe, et qui leur montrerait tous ses trésors, et qui ensuite les accompagnerait à la sortie en disant « Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi à regarder tous ces trésors, je pense que tout ceci est très beau, ça m'a fait très plaisir de les partager avec vous, maintenant rentrez bien chez vous. » Et il les remet à la rue. Notre Dieu n'est pas comme cela. Bien sûr, dans la théorie, dans la doctrine, dans l'exposition théorique de la foi, il nous montre, l'Église nous montre tous les trésors de Dieu. Et ensuite, il nous en rend participants. Si nous voulons devenir participants de ce bon pasteur qui nous a tant aimés, sachons marcher sur ses pas, être injuriés, être menacés, être traités injustement, souffrir. Et c'est ainsi que nous deviendrons participants des trésors que nous connaissons théoriquement, mais qui malheureusement, bien souvent, restent théoriques pour nous, puisque nous ne voulons pas faire le pas pour nous les approprier. Et c'est ainsi qu'on se les approprie. On ne peut pas garder ses haillons et vivre en même temps la vie d'un prince. Ou bien vous déposez vos haillons et vous vivez de la vie de princière que le roi veut pour vous, ou bien vous vous attachez à ce que vous êtes et vous vivez dans la rue, et quoi que vous sachiez que le roi est bien disposé envers vous, eh bien vous restez dans votre misère. C'est à nous de choisir, mes très chers frères. Le choix est déjà fait puisque nous sommes baptisés. Il nous faut maintenant le mettre en pratique. Il nous faut le mettre en pratique. Cherchons Dieu, mes très chers frères, de tout notre cœur et tendons vers lui nos mains, c'est-à-dire notre volonté. Dans le verset de l'Alléluia et dans le verset de communion, il est dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Connaissons-nous notre pasteur? Oui, nous le connaissons, puisque nous croyons à tout ce que l'Église enseigne sur lui. Alors, écoutons sa voix attentivement, sachons la reconnaître, mes très chers frères, fuyons les mercenaires, connaître le Christ, reconnaître sa voix, c'est en même temps reconnaître ceux qui ne sont pas qui n'ont pas la voix du bon pasteur ou des pasteurs légitimes. Fuyons les mercenaires qui nous excitent à la vengeance et au plaisir pour suivre le Dieu crucifié qui nous a mérité d'être non seulement relevé de la déchéance où nous gisions, mais aussi unis à lui pour l'éternité dans une joie qui commence dès ici-bas. Mes très chers frères, prions cette prière de tout notre cœur et sachons que Dieu nous exaucera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.